Bonsoir, insécurité dans la province de l'Ituri. Plusieurs localités des secteurs Walendu-Piti, Walendu-Djati et Walendu-Tati dans le territoire de Djougou sont occupées par les groupes armés Codeco depuis plus d'un mois. Dimanche dernier, ces rebelles se sont affrontés au FRDC dans le village de Boudou, causant la mort de 6 personnes, dont des femmes et des enfants. Entre-temps, des présumés rebelles ougandais ADF maintiennent leur activisme dans plusieurs villages du territoire de Mambasa. Des dizaines de personnes ont été tuées par ces rebelles depuis le début du mois de février. Comment analyser cette insécurité persistante et que faire pour y mettre fin? C'est notre thème de ce soir. Participe à l'émission où Tchirchan Boulé, ministre après le gouverneur et ministre des infrastructures, travaux publics et reconstruction du gouvernement provincial de l'Ituri. Monsieur Tchirchan Boulé, bonsoir.
Bonsoir aux commentateurs et bonsoir à tous les auditeurs.
Dans ce studio avec moi, Jean Bosco Lalo, membre de la société civile de l'Ituri, il est président du conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo. Monsieur Lalo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Didier Bitaki, ancien des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly et bonsoir à tous les collègues.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Salomon Ménélique depuis Bounia dans la province de l'Ituri. Depuis plusieurs jours, les forces loyalistes ont abandonné cette zone. Plus de 11 groupements dont nous ignorons encore les causes. Les milices exigent 1000 francs par semaine et par famille. Les forces de défense, de sécurité et renseignement ont failli à leur mission en Ituri. Les rebelles œuvrent sans trouver trop de résistance et c'est déplorable. Anéantir les rebelles est l'unique solution pour l'Ituri. Pour le moment, des peurs de voir l'Ituri être coupée du reste de la RDC. Joël Adia, depuis Mahagi, province de l'Ituri. Pour résoudre le problème de l'insécurité dans la province de l'Ituri, il faut un dialogue sincère et franc intercommunautaire. Le dialogue devrait se pencher sur les vraies revendications des uns et des autres. L'option militaire ne pourra jamais résoudre durablement le problème. Merci de nous suivre à Bounia sur la FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio
Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Depuis quelque temps, la situation sécuritaire en Ituri est préoccupante suite à la résurgence des groupes armés qui multiplient des actions contre la population. Il s'agit notamment de Codeco en territoire de Djougou et une partie du territoire de Mahagi, la force patriotique et intégrationniste du Congo FRPI au sud d'Irumu, les rebelles ADF et les miliciens Maïmaï en territoire de Mambasa. Les acteurs de la société civile dans ces entités déplorent plusieurs cas des morts et les déplacements des milliers d'habitants à la suite des attaques de ces hommes armés. Isaac Remo Yopé pour les détails.
C'est depuis 2018 que la situation sécuritaire s'est détériorée en Ituri avec les conflits armés en territoire de Djougou. Des assaillants de Codeco ont intensifié les attaques contre les positions des FARDC et des paisibles citoyens. Ils avaient établi leur base à la forêt de Wago qui a été détruite il y a quelques mois par les FARDC. En novembre 2019, environ 250 assaillants de Codeco s'étaient regroupés à Réti dans le cadre des processus de paix avec le gouvernement provincial. Mais ils ont été chassés par leur leader Justin Gujolo sous prétexte qu'ils vivaient sur le dos de la population. Depuis lors, ces miliciens sont disséminés dans plusieurs localités en territoire de Djougou et sèment la terreur dans la zone. Ils ont étendu leur violence en territoire de Mahagi où ils ont occupé pendant quelques mois trois groupements de la chefferie de Mokambu. Au sud de Diromou, il y a le nouveau groupe armé FPIC qui opère vers Tinia, Kilima, Nyankunde et périphérie. Des dizaines de villages sont déjà vidés de leurs habitants suite à l'activisme de cette milice. Dans le même territoire, il y a également les groupes armés FRPI dont les éléments estimés à environ 1125 combattants et leurs dépendants sont regroupés occupés au site d'Azita en attendant la signature d'un accord de paix avec le gouvernement prévu cette semaine pour leur désarmement et démobilisation. En territoire de Mambasa, on note la présence des miliciens Maïmaï qui s'attaquaient surtout à l'équipe des ripostes contre Ebola, notamment vers Biakato et Luemba. Depuis janvier, les rebelles ADF qui fuient l'offensive des FARDC au Nord Kivu ont intensifié les attaques en territoire de Mambasa. Selon des sources locales, plus de 100 personnes sont déjà tuées par ces hommes armés en l'espace de 2 mois et des dizaines de localités sont abandonnées par leurs occupants. Bounia Isaac Moyope, Radio Okapi.
Merci Isaac Raymond Yopé pour tous ces détails. Monsieur Outirchan Boulé, je rappelle que vous êtes ministre auprès du gouverneur et ministre des infrastructures, travaux publics et reconstruction du gouvernement provincial de l'Ituri. Depuis un temps, on observe une détérioration de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri, notamment dans les territoires de Mambasa, Djougou, Maagi et puis aussi à Irumu. Qu'est-ce qui explique cette insécurité? C'est M. Outirchan.
Merci, madame. J'ai suivi la synthèse d'Eremo Yopé. J'ai suivi également les préoccupations exprimées par nos compatriotes. La cartographie de l'insécurité ou des groupes armés telle que présentée par les journalistes Eremo Yopé est suffisamment enrichie. Du fait d'une cartographie objective. Donc, qu'est-ce qui justifie la détérioration de la situation? Il faut dire de un que c'est depuis 2017 que les conflits ont ressurgi à Djougou, les conflits armés, et la situation s'est développée jusqu'à 2018. Il y a eu presque 3 épisodes. Et pour ce qui concerne le territoire dont je parle, le territoire de Djougou, la dernière épisode est celle qui a repris presque vers novembre dernier, avec l'absence de son Excellence Monsieur le Gouverneur, qui s'était beaucoup donné pour remettre un peu la calmie dans la zone. Et à son absence, la situation s'est dégradée davantage jusqu'à ce jour. Pendant ce temps, du côté de Mambasa, du territoire de Mambasa et d'Irumu, il y a eu l'évolution pas favorable de la situation avec la prolifération des groupes armés qui opèrent dans la zone et qui au départ étaient hostiles à la riposte contre la maladie à virus Ebola, notamment Luemba, Biakato, qui sont l'épicentre de ces phénomènes-là. À Irumu également, on a suivi le développement de la situation, comme on le dit. Il faut tout simplement dire qu'ici, pour la partie de la province, il s'agit de la pression exercée sur les ADF au Nord Kivu qui force les ADF à faire des infiltrations au niveau de la province de l'Ituri. Et pendant ce temps, les groupes Maïmaï qui opéraient au Nord Kivu, ils ont créé un couloir pour pouvoir infiltrer la province de l'Ituri à travers le territoire de Mambasa. Et c'est ça la raison de l'insécurité dans la partie sud. Mais dans la partie nord, il faut reconnaître que c'est tout simplement un phénomène assimilable à un groupe armé qui opère dans une approche asymétrique et qui, à un moment, constitue des obstacles aux opérations de nos forces armées de la République. Mais comme vous l'avez suivi, il y a un temps, on avait démantelé n'est-ce pas les bastions de ces groupes au niveau de Ouago, et que par la suite ils ont même demandé qu'on les reçoive pour leur démobilisation. Bon, ils ont profité d'une accalmie qui pour moi aujourd'hui, je considère que leur main tendue était plutôt une prise de position tactique pour s'organiser et essayer de relancer les opérations.
Alors vous parlez, Monsieur Outirchan, vous parlez de prolifération des groupes armés au vu et au su de l'autorité provinciale ou l'autorité nationale. C'est difficile de maîtriser.
Quand les groupes armés se multiplient, madame, ils ne demandent pas l'autorisation de l'autorité provinciale.
Mais est-ce que...
Les services de sécurité travaillent, ils donnent des informations. l'armée prend des dispositions pour contenir, mais comme je l'ai dit, ils sont des groupes armés qui opèrent dans une méthode asymétrique, qui s'isolent dans la profondeur des forêts et font des incursions pour opérer. Donc quoi de plus normal qu'on soit confronté à ce genre de mode opératoire qui est du moins internationalement et universellement connu, difficile à maîtriser, mais il faut saluer les efforts fournis par nos forces armées de la République qui depuis deux semaines essayent de remettre un peu de l'ordre avec la baisse d'attaques contrairement à la période qui précédait les deux semaines.
Monsieur Ouchouchane, depuis plus d'un mois, le groupe armé Codeco contrôle plusieurs localités des secteurs Walendu-Pitsi, Walendu-Djati et Walendu-Tati dans le territoire de Djougou. Plus d'un mois, c'est quand même beaucoup. Laisser un groupe armé occuper ces localités et commencer même à faire la loi, exiger de l'argent à la population. Où est l'autorité de l'État?
Oui, les groupes armés sont composés des enfants maison. Je les appelle des enfants maison et que par moment, ils sont des citoyens ordinaires dans leur vie quotidienne, mais de temps à autre, ils deviennent pratiquement des hommes armés qui opèrent, et donc c'est là aussi le problème. Alors, beaucoup de localités contrôlées par les groupes armés, il faut ici préciser une chose. La localité où les groupes armés Codeco essaye de donner l'impression qu'il a le contrôle sur la zone, pourtant pas, tout simplement du fait que la zone de Grand-Romand jusqu'à Djiba avec le littoral, où nos forces armées étaient bien positionnées pour besoin d'efficacité et d'opération, il y a certaines positions qui ont été retirées et puis repositionnées dans la partie ouest. C'est cela qui donne l'impression que les groupes armés contrôlent certaines entités. Mais j'ai dit ici, il faut relativiser parce que ces localités-là, on peut les compter. On connaît quelques groupements effectivement où ils sont très actifs, mais il y a une planification qui est en cours pour pouvoir conquérir tous ces espaces.
Merci.
Parce qu'à ce jour, il y a des tentatives justement de groupes armés Codeco de pouvoir instaurer le système de collecte de cotisations en nature, ça et là, un phénomène sur lequel...
Merci, Monsieur Ouchouchane. On va vous redonner la parole. Jean Bosco Lalo, membre de la société civile de l'Ituri, vous êtes président du conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle. En tant que société civile, comment vous expliquez-vous cette détérioration de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri?
Merci, madame, pour la parole et j'en profite pour saluer tous les co-débatteurs ainsi que les auditeurs. Et nous voudrions d'entrée de jeu dire que il ne faudrait pas que nous puissions continuer à cracher sur la mémoire des personnes qui ont perdu leur vie et d'autres qui ont perdu leur bien et ceux qui sont encore à déplacement, donc hors de leur milieu d'habitation. Ici, nous voudrions dire que la situation que vit l'Ituri, elle est plus que catastrophique. On peut aujourd'hui se permettre de parler, d'en discuter, mais ceux-là qui les vivent en eux-mêmes, ceux-là qui sont victimes sur le terrain, je pense qu'ils se demandent, est-ce qu'au Congo, il y a encore un État? Est-ce qu'à la province, il y a encore un gouvernement? Est-ce qu'à la province, il y a encore des militaires? Et pourtant, nous avons vu les actions militaires menées depuis le début des hostilités sur le terrain, et j'allais vous dire ici que même les militaires, les policiers ont perdu beaucoup de leurs et que nous regrettons amèrement. Pourtant, ils voulaient bien sauver des vies des citoyens qui étaient sans défense. Madame, par rapport à la situation de l'Ituri, comme c'est ça la question du jour, l'Ituri ressemble aujourd'hui à un terrain fertile au groupe armé. Et pour ne pas dire même très fertile, parce que finalement...
Ça veut dire qu'il y a laissé aller n'importe qui peut créer son groupe armé. Il ne sera pas inquiété.
Je ne voudrais pas le dire, mais je voudrais qu'on le constate avec vous. Parce que même le ministre, il vous l'a dit que les groupes armés, ils occupent des territoires assez importants. Et pourtant, on se demanderait qu'est-ce qu'ils gèrent finalement. Est-ce qu'ils sont des ministres, ils sont des gouverneurs, pendant qu'il y a des hors-la-loi qui occupent des grands espaces, comme vous dites là, vous avez cité trois entités, vous avez cité Walendu Pitsi, Walendu Tati, Walendu Djati, ce sont des espaces énormes, et même quand on dit littoral, ce n'est pas de la blague, et pourtant, littoral c'est un espace stratégique. Par rapport auquel on a toujours plaidé, c'est la partie qui devait être la plus sécurisée possible, s'il fallait sécuriser. Et voilà, aujourd'hui, le ministre vous confirme que c'est une partie abandonnée, c'est une partie dégarnie, c'est une partie occupée. Et moi, je vous dis que ce littoral-là donne l'occasion à l'Ouganda, donc ouvre aussi l'Ouganda, et ça facilite alors, s'il faut le dire ainsi, le ravitaillement de ces groupes de miliciens. Alors, lorsqu'on parle de l'écartonnement à Pandroma, je pense que c'est aussi un aspect qui devait nous interpeller en tant que responsables. On a vu ces miliciens cantonnés à Pandroma, on a vu ces miliciens défiler à Pandroma, et on a vu leurs munitions, on a vu leurs tenues militaires, et on se demande, est-ce qu'il y a un autre... Il y a un autre État dans l'État congolais où il y a un autre gouvernement provincial dans le gouvernement provincial de l'Ituri. Alors, ça nous inquiète. Et aujourd'hui, nous voudrions que les problèmes soient abordés à terme de solutions. Parce que finalement, ça fait trop de débats. Même quand on voit Mambasa aujourd'hui, quand on dit que les EDF sont déjà à Mambasa.
Il faut trouver d'abord les causes avant d'aller aux solutions.
On ne s'imagine pas les dangers que ces EDF présentent pour l'Ituri aujourd'hui. Les EDF viennent s'ajouter, et je pèse mes mots, ils viennent s'ajouter aux autres groupes armés qui sont déjà à Mambasa. Et malheureusement, ces EDF aussi, depuis Nord Kivu, il semblerait, selon ce que nous vivons, que tous les petits groupes armés semblent être fédérés aux EDF. On ne comprend pas. Les Maïmaï du Kivu, de Nord Kivu, ils semblent être fédérés. Et aujourd'hui, nous avons peur que ces EDF puissent aussi fédérer les Maïmaï qui sont à Mambasa. À Mambasa, il y a aussi des groupes armés. Le groupe armé qui a été quand même suffisamment démantelé par la 31e brigade qui était basée à Mambasa. Et il s'agit des Morga, il s'agit des groupes Werason qui ont semé la terre de l'isolation. Mais aujourd'hui, si les EDF peuvent atteindre Mambasa, je vous dis, ils sont déjà allés vers Kisangani. Et en même temps, ce que nous déplorons à l'Est sera aussi déploré au centre du Congo et pourquoi pas à l'Ouest du Congo et jour. Donc il y a lieu que tous les Congolais ainsi que le gouvernement dans son ensemble prennent ces questions-là au sérieux. Il ne faut pas qu'on blague. Et aujourd'hui,
vous avez l'impression qu'il y a une certaine légèreté dans le traitement de cette question sécuritaire?
C'est par rapport à la situation du terrain. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'un groupe de gens, des civiques soient-ils, puisse être en mesure de mettre à déroute alors. Parce que si maintenant nous sommes dans ce contexte-là, l'armée est à déroute. Donc à Djougou, l'armée ne sait pas. Donc l'armée ne contrôle pas trois chefferies, donc trois secteurs.
Selon le ministre, après le gouverneur, c'est un repli stratégique.
Le repli peut être stratégique, mais en tout cas, les dégâts sont graves. Parce que ce sont les civils maintenant qui sont abandonnés entre les mains de ces miliciens, qui les rassonnent jour et nuit. Et à ce niveau-là, le gouvernement, aussi bien provincial que national, devait être mal à l'aise. On ne peut pas se frotter les mains lorsqu'il y a des citoyens qui sont abandonnés entre les mains des groupes armés ou des groupes rebelles tels qu'on les vit à Ituri.
Et dans ces localités, monsieur Jean Bosco Lalo, vous êtes de la société civile. Que deviennent finalement les chefs des localités, les chefs des secteurs? Est-ce qu'ils dépendent maintenant de ces groupes armés ou du gouvernement provincial de l'Ituri?
Ce sont des questions qui étaient posées depuis longtemps et qui n'ont jamais de réponse. Et à l'époque, nous avions même demandé aux gouvernants, aussi bien professeurs que nationaux, qu'on fasse un état des lieux des actions qui ont été menées à Djougou. Parce que les chefs de localités, les chefs de groupements, les chefs de chefferie secteur, lorsqu'on voit ce qui se passe dans ces territoires-là, il semblerait qu'ils sont justement les chefs de ces miliciens. Et entre-temps, le gouvernement provincial et national continue à collaborer avec ces mêmes chefs de localité, mêmes chefs de village, qui aussi collaborent avec les groupes armés et les miliciens. À un moment donné, il était question même que ces chefs-là, qui ne savent pas remonter les informations, ou s'ils les remontent, il n'y a pas d'action par rapport à leurs informations. Je pense que les responsabilités sont très partagées et nous devons être tous interpellés par rapport à la situation que vit l'Ituri.
Didier Bitaki, ancien des groupes armés au Kivu, vous êtes aujourd'hui expert en désarmement et en droit international humanitaire. Votre lecture par rapport à cette insécurité persistante dans la province de l'Ituri?
Merci beaucoup, madame. En suivant les deux co-débatteurs, notamment le ministre pour les gouverneurs et l'activiste de la société civile, tel qu'il présente le tableau assez sombre de la situation en Ituri, je me rends compte ici que nous sommes en train de répéter l'histoire. Je crois, il y a de cela deux mois que je suis intervenu sur ce même micro de Radio Okapi, où je discutais ensemble avec un représentant du gouvernement, du Premier ministre, de pêcher dans la zone pour résoudre la question des pays et des Côte-Éco. Et j'avais dit qu'il serait très difficile pour lui, en tout cas, d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés ou que ses dirigeants, ses chefs lui ont fixés, parce que tout simplement la procédure qu'il avait engagée dans le but d'obtenir un accord avec le FRPI et d'autres milices était totalement erronée. Ce n'était pas un objectif atteignable. Et j'avais prévenu même que nous reviendrons sur ce même débat un autre jour pour prouver qu'effectivement, ce qu'ils ont défini en termes de stratégie pour mettre fin à l'insécurité était en tout cas une stratégie de maladresse. Je regrette. En ce qui concerne l'insécurité, elle n'est pas récurrente, non. Elle n'est pas récurrente, je le dis bien. C'est une insécurité permanente. Elle ne fait pas une récurrence qu'elle existe aujourd'hui ou elle a commencé aujourd'hui. Non, elle est là, elle est permanente. Je crois, madame, ce qui se pose en termes de problèmes aujourd'hui, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le dit. L'État congolais n'existe pas. La République du Congo reste un vaste territoire, un pays où l'État n'existe pas. L'État ne s'exerce pas, n'existe pas, n'a pas besoin de des habitants, malheureusement, qui sont le plus souvent rationnés par un État quasi inexistant, d'ailleurs inexistant totalement. Pour le cas de ces FRPI et de Codeco, le problème de Codeco, c'est question de savoir d'abord qu'est-ce qu'ils cherchent, quel est le problème qu'ils posent en termes de revendications, parce qu'il faut partir de là. Parce que l'armée aujourd'hui peut nous dire, je crois, bon voilà, nous avons commencé des opérations, comme on l'a lancé au Nord Kivu, qu'il y a des opérations en grande envergure, mais une armée qui n'est pas accompagnée par l'administration, une armée qui tente de se retrouver elle-même, mais dont la cohésion en interne n'existe pas. Certains, au sein de cette armée, collaborent avec les groupes armés, de l'autre côté, il y en a ceux qui sont contre. Alors, la CODECO a des revendications, il faut les reconnaître. Quelles sont ces revendications? Il faut aller auprès d'eux pour savoir cela. Quel est le problème? Et ils vont vous le dire, je crois. Ils vous diront que bon, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et ce sont ces revendications-là qu'il faut résoudre au niveau de l'État. Mais quel État doit discuter avec eux? Il n'y en a pas.
Didier Bitaki, excusez-moi de vous interrompre. Vous qui êtes un ancien des groupes armés au Kivu, généralement, quelles sont les revendications des groupes armés? Pourquoi ils prennent les armes?
Écoutez, ça dépend d'un lieu à un autre. Vous voyez, le Codeco, par exemple, et disons, parlons d'abord de l'exemple du Kivu. Le groupe armé au Kivu qui ont décidé de s'insurger contre certains faits ou certains événements ont des objectifs différents. Vous vous rappelez qu'en 2018, lorsque la RDC, en 2008, disons, en 98, lorsque la RDC a été victime d'une agression de la part de ses voisins, notamment les Rwandais et l'Ouganda, les groupes armés se sont insurgés contre l'agression. Et au terme de cette agression, quand il y a eu réunification de la République, je crois que vous vous rappelez, madame, parce que vous étiez déjà à Radio Okapi, vous avez compris que ces Maïmaï qui s'insurgeaient ont immédiatement déposé les armes et ils ont dit l'objectif pour lequel nous nous battions n'existe plus. Mais pour le cas de l'Ituri aujourd'hui, parce que ça existe depuis 1996 jusqu'à ce jour, on n'a jamais su l'objectif pour lequel ces groupes se battent. Vous vous rendrez compte qu'il s'agissait d'ailleurs de révoltes de certaines ethnies qui se sont mis à attaquer d'autres. Et en conséquence, il fallait que certaines fuient et d'autres restent. Il y avait un conflit foncier. Les uns accusaient les autres que non, ils ont spolié leurs terres, ainsi de suite. En Ituri, pour trouver une solution, ce n'est pas par la guerre. Ce n'est pas par la guerre parce que d'abord l'armée est inefficace. L'armée mal encadrée qui vend les armes, malheureusement, aux miliciens, ne peut pas résoudre un problème comme celui de l'Ituri. Il faut aller vers Codeco, il faut aller vers le FRPI. dire la vérité et demander à ces derniers d'adresser ces revendications directement au gouvernement qui doit résoudre le problème pour savoir effectivement est-ce que par la suite il n'y aura plus résurgence des groupes armés, parce que ces groupes sont les mêmes, ils n'ont jamais changé, ils sont là sur place. Je regrette le fait que le ministre, le gouverneur, ait ressenti qu'effectivement il y a certains espaces qui échappent au contrôle de l'État, pendant que lui-même est administrateur, lui-même est aux côtés de l'autorité, mais il reconnaît quand même que l'État a abandonné certaines portions de terre. La défense nationale n'est pas une question où les gens doivent considérer que bon, si tel espace est occupé par un groupe armé, il faut le laisser comme ça et la vie continue. Non. Le peuple, les populations qui sont dans ces endroits-là ont besoin de ressentir la puissance publique, ont besoin de vivre en paix, ont besoin de savoir qu'il est protégé. Sinon, à défaut, c'est que l'État comme a failli complètement, on risque de se retrouver demain ou après-demain dans d'autres territoires de la République, même au centre ou à n'importe quelle autre entité, se retrouver sous le contrôle des miliciens et du coup, ça remettra en cause même et l'intégrité et l'unité nationale.
Merci,
et il faudra déplorer ce genre de choses.
Merci Didier Bitaki. Monsieur Utirchan Boulay, ministre après le gouverneur et ministre des infrastructures, travaux publics et reconstruction du gouvernement provincial de l'Ituri. Les auditeurs sont très nombreux à appeler. On va prendre pour vous cette réaction, monsieur Utirchan, qui nous vient de Kinshasa.
Guy Kisengi attend pas depuis la commune de Lemba à Kinshasa. Ceci prouve suffisamment l'absence de l'autorité de l'État dans certains coins de la République et que nous avons la malchance, au lieu d'avoir les autorités qui s'occupent du bien-être de la population, mais nous avons des autorités qui ne s'occupent que de leurs propres intérêts. Pour mettre fin à cette situation, la solution est simple. Car cela ne demande pas beaucoup d'études. C'est juste à ceux qui nous dirigent de prendre conscience en mettant le peuple au centre de tout.
Monsieur Utirchan, absence de l'autorité de l'État. Vous êtes d'accord avec cet auditeur qui rejoint aussi un peu l'analyse de tout à l'heure de Didier Bitaki et même de Jean Bosco Lalo.
Madame, je crois que nous devons rester sereins. Absence de l'autorité de l'État. Si, en tout cas, le gouvernement estimait que l'autorité de l'État était totale sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, donc dans les programmes du gouvernement central ainsi que du gouvernement provincial, il n'aurait pas un axe qui s'appuie sur la restauration de l'autorité de l'État. Donc cela montre tout simplement qu'il n'y a pas de nouveauté dans ce que les intervenants viennent de dire. L'État a posé le diagnostic que l'autorité de l'État pose problème à certains endroits et que tout est fait pour que cette autorité de l'État soit rétablie. Donc là, on ne nous dit que ce que nous avons déjà prévu.
Il faut attendre combien de temps? Il faut attendre combien de temps, attendre combien d'années pour qu'on puisse restaurer cette autorité de l'État?
Madame, écoutez-moi, l'autorité de l'État ne peut pas se rétablir par baguette magique. C'est tout un processus, comme sous tout d'autres cieux. Pourquoi on ne met pas fin au terrorisme d'un clin d'œil, c'est terminé, c'est fini? Non, nous devons rester objectifs, nous devons rester sereins et républicains. Je crois que le gouvernement est conscient que sur l'ensemble de la République, et particulièrement en Ituri, à certains endroits, il se pose un problème d'autorité de l'État, mais que l'État travaille justement pour restaurer cette autorité, et ce travail se fait au quotidien. Donc je pense que de ce côté-là, on a qu'à nous encourager à travailler davantage pour la restauration de cette autorité de l'État. Alors, Didier Bitaki est revenu sur ce qui constituerait la clé de réponse appropriée à régler la question des CODECO. Bien évidemment, le gouvernement provincial s'est donné le courage d'écouter les CODECO, d'écouter les communautés, d'envoyer les émissaires auprès des CODECO. Jamais, jamais, un seul agenda ou revendication n'a été communiqué jusqu'à ce jour. Et donc, nous sommes sur le même élan. Nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse identifier très correctement les revendications de ces groupes qui, à ce jour, ne sont pas exprimées de manière claire. Il n'est pas seulement question de CODECO. Il y a un autre groupe à Irumu qu'on appelle un groupe qu'on localise au niveau de Tignac-Lima, qui n'a pas encore présenté de manière très claire ses revendications.
FPIC.
Et a des tracts pour dire, voilà, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, il va communiquer ses revendications. Donc je pense que pour nous, il est question que nous puissions peut-être effectivement repenser nos stratégies, notre organisation, pour faire face à cette situation. Mais que dire que l'État ne fait rien, les gens ne s'occupent que de leurs intérêts, c'est une mauvaise lecture. Ça, c'est une très mauvaise lecture.
Monsieur, alors, monsieur le ministre, monsieur le ministre, excusez-moi. S'il vous plaît, allez-y. Oui.
J'allais dire, par exemple, celui de la société civile, il dit que moi, je dis ici que les groupes armés occupent des territoires importants. Non, ça, c'est pas venu de moi. Peut-être il voudrait bien le dire. Je dis qu'il y a effectivement quelques zones où ça donne l'impression que le groupe armé a le contrôle sur ces zones-là, mais ils n'ont pas une administration dans ces zones, donc ça signifie qu'ils ne ils ne contrôlent pas la zone en termes d'administration, mais c'est leur présence qui se remarque davantage. Et donc je dis qu'une planification était en cours, qu'on travaille là-dessus. Bien sûr, il faut reconnaître ici qu'avec le nouveau cycle d'insécurité du côté du Sud Kivu, du côté du Sud Kivu, au Nord Kivu, il y a eu un besoin intense en effectif des hommes de nos forces armées de la République. Et cela a eu une incidence directe sur les opérations qui étaient en cours, n'est-ce pas, dans la province de l'Ituri. Mais que cela a été porté à la connaissance des autorités nationales, et nous pensons qu'avec l'arrivée annoncée du ministre de la Défense en Ituri, en tout cas les petites questions qui se posent au niveau de notre organisation interne pourraient trouver des réponses adéquates, parce que déjà ces réponses sont d'ailleurs en cours.
Monsieur Outurchan,
voilà, madame.
Oui, monsieur, on vous a compris, monsieur Outurchan, mais j'ai une question. Je l'ai posée tout à l'heure à monsieur Jean Bosco Lalo de la société civile. De qui dépendent aujourd'hui les chefs des secteurs, localités où les groupes armés ont le contrôle?
Tous les chefs dépendent de l'administration provinciale. Ils répondent devant l'administration provinciale. Ils sont tous membres des comités de suivi des dialogues intracommunautaires qui ont été organisés dans ces entités. Et ils constituent le pont entre le gouvernement.
Allez-y. Ils constituent le pont entre le gouvernement et les groupes armés?
Entre le gouvernement et les groupes armés, à ce qui concerne les cas, particulièrement pour les groupes Codeco.
Donc, merci.
Ces groupes, il faut dire qu'il y a même une mission de l'état-major général qui est sur place pour la sensibilisation depuis plusieurs mois.
Merci, monsieur Boulet.
Notamment nos fonds pour tenter, n'est-ce pas, de trouver les vraies revendications du groupe Codeco ainsi que du groupe Chiniakalim et Akilima, et nous pensons que dans les jours qui viennent, ces groupes devraient tout simplement nous présenter leur cahier de charges de manière très claire.
Merci, monsieur Boulet. On va vous redonner la parole. Merci, monsieur Boulet. Merci. Vous n'êtes pas seul dans le débat, monsieur Boulet. On va laisser aussi l'occasion aux autres co-débatteurs de pouvoir réagir. Monsieur Jean Bosco Lalo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient. La réaction de monsieur Jean Bosco Lalo qui nous vient de Boutembo.
Maître Mumberezo, qui trésore depuis Boutembo. Je crois que la persistance de la sécurité dans l'Ituri et la récente expansion des EDF dans les territoires de Mombasa est due aux erreurs dans la planification des opérations de lutte contre les groupes armés, mais également à l'absence d'un ratissage sérieux après la destruction des grands bastions des rebelles. Pour mettre fin à cette insécurité qui s'accompagne malheureusement des violations graves des droits de l'homme, l'armée doit radicalement changer de stratégie.
Ça peut être une des solutions, changer de stratégie.
Oui, je pense que l'intervenant a fait une analyse. C'est son point de vue que je respecte direct. Mais je voudrais rentrer un peu dans les propos du ministre provincial, Honorable Boulet. Aujourd'hui, quand nous parlons, quand nous sommes même dans les débats, nous devons nous dire ou nous rendre compte qu'il s'agit des vies humaines. Et ces vies humaines sont sacrées du reste et qui doivent être protégées à tout prix et donc à priorité de tout. Aujourd'hui, on ne pouvait pas accepter ou même tolérer pendant qu'il y ait des personnes qui sont arrêtées de tuer tous les jours et qu'il y ait d'autres activités qui sont organisées comme des fêtes, comme beaucoup de magistrats qui sont même cités de gauche à droite. Moi, je pense que ça devait rester comme une préoccupation majeure de tout le monde. Pour rentrer par rapport à Codeco, Codeco a fait une sortie médiatique il y a quelques temps. Ils ont produit un document signé le 28 janvier 2020 où Codeco dit qu'il n'est plus Codeco. Codeco dit qu'il s'appelle URDC pour dire Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais. C'est vrai, depuis 2017, il n'y a eu jamais de revendications présentées. Et c'est ce qui a floué les choses. Mais aujourd'hui, lorsque Codeco, qui s'est mu à URDPC, prétend travailler pour la libération du peuple congolais, je pense que nous devrions tous être interpellés pour voir que Codeco, c'était finalement un arbre qui cache une forêt. Moi, je pense que ce qu'on doit se dire, que Codeco, c'est un arbre finalement qui cache une forêt. Et ça demande du côté des gouvernements, aussi bien provincial que national, des efforts ou des stratégies nouvelles. Mais lorsqu'on a connu la calmie en Ituri, madame, je crois qu'on doit être sincère et honnête, c'est après le passage de l'État, son excellence Félix Antoine Tshilombo en Ituri, qui s'est même rendu jusqu'à Djougou, et a remis un moyen assez suffisant, et a stimulé ou motivé les militaires, on a vu des opérations de grande envergure. Malheureusement, la joie a été courte, ça n'a pas duré. Après ces moyens remis par chef de l'État, il n'y a plus rien eu. Ce qui a fait que les Codeco ont récupéré tous les étendues qu'ils géraient auparavant.
Et quelle serait la solution aujourd'hui? Il faut continuer, il faut utiliser l'option militaire ou bien le dialogue comme l'a proposé cet auditeur, Joël Adia depuis Mahagi, et même Didier Bita qui a parlé de dialogue. Il faut approcher ces groupes armés.
Madame, ceux qui connaissent l'Ituri, en Ituri, il y a plusieurs prisons, plusieurs grandes maisons de détention construite depuis l'époque coloniale. Je peux vous citer, à Libye, il y avait une grande maison de détention. Libye, Djougou, c'est plus ou moins 30 kilomètres. Il y avait une autre grande prison où même le père y était détenu. Ça, c'est à Djougou. À Pimbo, il y a une grande prison à 15 kilomètres. Donc finalement, imaginez-vous que c'était une région quand même assez criminogène. Et ça supposait que l'État y veille, que l'État réprime les mauvais comportements. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un relâchement. Donc, quand on dit négocier, ça sera comme Didier l'a dit, et je pense que Didier a raison, ça sera un cycle infernal. Pendant qu'on nous promet que FRPI va bientôt discuter avec le gouvernement, la délégation de Kessa, le ministre de la Défense, le chef d'état-major, je ne sais pas qui, pour que FRPI sorte, mais on vous annonce déjà, avant même que ces gens-là arrivent, il y a déjà un autre groupe armé qui se crée. Ailleurs. Et en même temps, dans les FRPI même, il n'est pas question de s'imaginer que c'était un bloc uni et puis homogène et qu'il n'y a pas de personnes qui sont hors des FRPI et qui vont continuer à opérer. Moi, je pense que la solution pour l'Ituri doit impliquer tout le monde, doit impliquer toutes les couches sociales. Et c'est cela qui pourrait permettre à ce qu'on arrive à la paix, et cela demande des moyens et des patience. Et en même temps, comme les autorités ont déjà accepté de nous diriger au niveau national, au niveau provincial, je pense qu'ils doivent mettre la main à la pâte.
Merci Jean Bosco Lalo, Didier Bitaki. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kanyabayonga.
Bon, Claude Sikahana, à partir de Kanyabayonga, province du Nord Kivu, je me dis que c'est aussi à cause du brassage qu'on avait fait et à l'intégration de certains miliciens dans l'armée nationale. Vous voyez vous-même que parmi les brigades, il y a des militaires qui sont devenus des coutumiers. Il y a 4e brigade qui est à Ituri, qui n'a jamais été mobilisée même ailleurs. Il y a aussi les brigades de ce brassage-là, qui sont en orchise, qui n'ont jamais quitté le milieu. Ils sont devenus des cultivateurs, sont devenus des commerçants. C'est pourquoi moi je suis sûr qu'il fallait que, pour terminer, pour qu'on puisse mettre fin aux différentes rébellions qui utilisent par-ci par-là, il fallait que on puisse revenir au cas de départ. On puisse maintenant chercher parmi les militaires ceux-là qui sont vraiment dignes, qui ont l'amour du pays, qui sont patriotes.
Didier Bitaki.
Madame, que l'auditeur qui vient de parler n'a fait que, oui, l'auditeur n'a fait que répéter ce que nous avons toujours eu l'habitude de dire.
Le problème qui se pose en RDC aujourd'hui, on ne sait pas le répéter plusieurs fois, la disparition de l'autorité de l'État, mais le problème qui se pose, c'est cette attitude à pouvoir relativiser le problème, relativiser ce qu'il y a comme mot qui venge la nation, et surtout l'acceptation par l'État congolais de la cohabitation, donc de cohabiter avec des milices ou des groupes armés. C'est ça le nœud du problème. Quand un groupe armé naît dans un territoire, je crois qu'on doit savoir pourquoi est-ce que ce groupe voit le jour. Quel est l'objectif, pourquoi il s'est créé. Nous ne sommes pas dans un État qui existe au sens vrai. Ici, il s'agit également d'autres perturbations qui viennent de l'extérieur. Parce que les armes dont disposent les groupes proviennent, on ne fabrique pas des armes à RDC, madame, il faut comprendre cela. Il y a des pays voisins, notamment l'Ouganda, qui n'a pas besoin du rétablissement de la paix à l'est du Congo pour qu'il vive tranquillement. L'Ouganda tire profit de l'instabilité à l'est afin de reconstruire, de rebattre, consolider son économie. Il en est de même pour le Rwanda. Je vous donne les cas du Nord Kivu, disons de manière générale. Le Nord Kivu dispose de plus de 50 groupes. Mais ces 50 groupes, vous y trouverez au moins 40 dans l'ensemble qui collaborent avec le gouvernement rwandais, avec les autorités rwandaises. Ceci permet à ce que la sécurité au niveau des frontières, la sécurité du Rwanda au niveau frontalier soit assurée. Alors qu'en interne, en République démocratique du Congo, on se contente de penser que bon, l'existence de ceci, parce qu'il ne s'attaque pas à l'armée régulière, il devient un groupe ami. Et du coup, l'armée se permet de donner des moyens et d'assister aux actes, aux actions, aux événements de ces miliciers. D'autres cas, vous constatez dans l'ensemble que même les militaires déployés sur le terrain qui devraient assurer peut-être la protection du territoire et peut-être le démantèlement de ces miliciers, est une armée qui n'est pas encadrée, qui n'a pas de moyens. Il y a des militaires que vous trouvez dans les Nord Kivu, il y a des soldats qui ont déjà passé plus de 4 mois sans être payés, ils ne sont pas nourris, ils ne font rien. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Ils prennent leurs armes, ils les vendent aux miliciers et disent « Nous n'avons plus rien à garder, nous n'avons plus rien à gagner, autant mieux laisser ceci entre les mains des miliciers que garder l'intégrité du territoire d'un pays ou d'un pouvoir qui ne compte pas sur nous et qui ne nous respecte pas. » Alors, toutes ces conséquences-là émanent de l'inefficacité de l'administration. L'État a disparu, l'administration n'existe plus, et donc tout le monde peut se permettre...
La solution aujourd'hui, Didier Bitaki, qui est votre conclusion?
Tout ce que je recommande, moi, à mon sens, c'est que l'État congolais doit se ressaisir. Il faut que l'autorité de l'État s'impose.
Merci.
Il faut que l'administration assume ses rôles régaliens de manière à protéger chaque citoyen sur chaque périmètre. Sinon, si cela ne se fait pas, nous nous retrouverons un jour à Kinshasa où des groupes armés naissent.
Merci,
et le gouvernement
Didier
sera incapable de les maintenir.
Merci Didier Bitaki. Monsieur Chinchal, vous voulez votre conclusion en quelques secondes?
Quelques secondes,
vous
madame.
Vous dites quoi à cette population de l'Ituri qui vous suit?
Oui, la population itourienne doit continuer à espérer la paix parce que nous devons travailler collectivement pour la paix. Cette population est appelée à contribuer à ce processus. Tout en étant d'accord que la vie est sacrée, on ne devrait pas cracher là-dessus, mais aussi il serait malsain de cracher sur les efforts du gouvernement.
Merci.
Deux mois, 20 jours de mon intérim à la tête de la province.
Merci, monsieur Boulet, Jean Bosco Lalo.
Oui.
En un mot.
Oui, en tout cas, pour nous, il faut que le gouvernement puisse jouer efficacement son rôle et aussi contrôler suffisamment les mouvements de population. Parce qu'en Ituri, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent des Congolais, qui se sont établis d'eux-mêmes.
Merci.
Et un nombre suffisant en Ituri, et cela aussi peut jouer sur la situation.
Merci Jean Bosco Lalo, merci aux auditeurs, vous avez été nombreux à nous écrire. Daniel Boulembo, Jack Kamoni Motanga, Germain Zungan Office, Matata JP, Matou Mambila, Alikasi, merci aussi à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Alain Goethe était à la prise de son. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.